Merci beaucoup. Autour de Jésus, mort, ressuscité, c'est vers lui que nous nous tournons. Il a pris notre place et nous pouvons recevoir le salut. Nous allons chanter pendant que le pain et les coupes passent attachés à la croix pour moi. Et je vous lis quelques versets bien connus dans le chapitre 53 d'Ésaïe, qui nous dit qu'il a pris notre place, que c'est pour nous qu'il a fait tout cela. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce texte nous dit, avec beaucoup d'expressions complémentaires et beaucoup de répétitions importantes et solennelles, qu'il a pris notre culpabilité, nos fautes, et qu'il a été transpercé, maudit, meurtri à cause de nous. En échange, il nous offre la justification, le pardon, la paix, la réconciliation, le salut. Et pour que nous nous souvenions de ce moment déterminant lors duquel il a accepté d'être condamné à notre place, il a voulu que nous puissions prendre le pain qui rappelle son corps, la coupe qui rappelle son sang, et que nous puissions être régulièrement ensemble autour de lui, devant lui. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Et je vous invite à vous lever pour ce temps de recueillement maintenant. Quand il a pris le pain, Jésus dit, c'est mon corps qui est donné pour vous. Prenez, mangez, souvenez-vous de moi toutes les fois que vous en prenez. Et quand il prit la coupe, il leur dit, c'est mon sang qui est répandu pour vous. Souvenez-vous de moi toutes les fois que vous en buvez.
Attaché à la croix pour moi. traité innocent pour ma vie.
Nous allons chanter encore un dernier chant avant la prédication, où on va pouvoir chanter de tout notre cœur que le nom de Dieu est merveilleux. Ce nom est si merveilleux.
merci beaucoup. Encore quelques annonces avant la prédication et le temps de l'offrande. Désolé de ne pas l'avoir dit tout de suite pendant ce temps. Un seul visuel très simple pour rappeler les réunions de la semaine. Ce jeudi, la réunion de prière à 18h30. Dimanche prochain, le culte est reprise de l'école du dimanche, avec reconnaissance pour tous ceux et celles qui se dévouent, et prière pour que les enfants puissent en bénéficier. Quelques remarques concernant les annonces qui sont dans le quad neuf. Dans le paragraphe « Les uns les autres », nous avons ce qui est souvent le cas dans notre vie, la juxtaposition de merveilleuses nouvelles et de choses lourdes. Et nous sommes très heureux qu'Héloïse soit née et qu'elle soit arrivée dans le foyer de Laurent et Rachel. Et nous intercédons pour Marcel, pour Jean-Claude, pour Inès, pour Lise et pour d'autres. Notre quad neuf mentionne quelques-uns de nos amis hospitalisés, mais nous n'oublions pas d'autres épreuves pour lesquelles nous voulons intercéder. Je rappelle ce qui est rappelé dans le quad neuf, qu'il y a eu une suggestion d'élan de prière particulier, en plus de tout ce que nous pouvons vivre dans la prière pour notre chère Lise. Et si vous voulez vous inscrire pour un jour particulier dans le mois où vous vous engagez à penser particulièrement à Lise, à prier pour Lise, alors inscrivez-vous dans le hall sur la feuille qui est prévue pour cela. Et si vous priez tous les jours, vous n'êtes même pas obligé de vous inscrire, mais c'est un bel élan à côté de tous les autres. Une annonce, je donne la parole à Guy pour l'évangélisation et un nouveau parcours de prière.
Vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ça tombe bien, aujourd'hui je m'adresse aux meilleurs. Voilà, ça c'est fait, j'ai osé. Eh bien, peut-être vous avez vu pendant cet été les maisonnettes qui sont là dehors. Eh bien, elles ont été repeintes, elles ne sont pas encore toutes mises en place, mais ça ne saurait tarder. Et puis, on a prévu un nouveau programme pour ce parcours méditatif. On va faire la publicité. Et pour ça, j'ai besoin des meilleurs. Alors, je vous invite à venir vous inscrire auprès de moi ce dimanche, parce que c'est pour cette semaine, prendre des rendez-vous. Alors, ce n'est pas très compliqué. Soit on met une invitation à venir dans une boîte aux lettres, soit on toque, on saute, soit on sait faire. Hein. Et puis on dit bonjour monsieur, madame. Voilà, on a à l'église un parcours qui est fait pour vous, pour réfléchir un peu. Et cette année, mais je veux, voilà, j'en dis pas plus. Alors, venez me voir. Alors, j'ai oublié quelque chose de très important. Si vous ne venez pas pour faire ce talk, vous priez. Vous priez parce que c'est un moment important de la vie de l'Église qui s'adresse aux meilleurs, de prier parce que nous allons voir nos voisins. Et voilà, on ne le fait pas tellement souvent. C'est important pour l'Église. Je ne vais pas le dire assez. C'est une chose capitale que nous ayons vraiment contact avec tous les habitants du quartier. Peut-être aussi essayer de joindre les gens du parc si vous allez vous promener. Vous prenez quelques invitations, vous donnez aux gens qui viennent se promener au parc, parce que le parcours, il est là. Donc, c'est pour les inviter à venir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dimanche prochain, peut-être, à partir de dimanche prochain, vous verrez Mathieu. Mais vous êtes concernés par cette distribution d'invitations. Si je suis tout seul, si on est deux, si on est trois, quatre, cinq, voilà, donc, peut-être que j'ai assez insisté. Enfin, voilà, je serai reconnaissant si vous venez me voir. Voilà.
Merci Guy. Merci de nous rappeler l'importance du rayonnement dans le quartier. Beaucoup d'églises, dans les dernières années, ont un peu redécouvert, ce qui était évidemment connu, l'importance du rayonnement dans le quartier. Et cet outil veut y contribuer. Merci beaucoup. Le quad neuf nous rappelle aussi l'AG de notre union d'église, l'association baptiste, le dernier samedi du mois de septembre. Quelques personnes se sont déjà signalées. Si vous pensez pouvoir y venir, Merci de nous le dire pour que nous confirmions l'équipe qui va représenter notre Église, puisque chaque Église a des délégués à cette Assemblée générale selon la taille de l'Église, et nous avons droit à 5 délégués. Donc c'est important que nous soyons représentés par plusieurs d'entre vous. Voilà pour les annonces. Que Dieu nous aide à nous porter les uns les autres, comme Sarah l'a beaucoup dit ce matin, à intercéder les uns pour les autres et à nous encourager au bien, à l'annonce de l'Évangile et au rayonnement. Je suis heureux d'ouvrir encore la parole de Dieu avec vous maintenant. Et en cette période de rentrée pour beaucoup, de nouveaux départs, j'ai pensé méditer cette déclaration forte, étonnante de l'apôtre Paul, qui dit « Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Une déclaration très forte qui dit, qui parle d'un nouveau départ, qui parle de nouveautés profondes et de ce que certains appelleraient un virage à 180 degrés. Tout est vu différemment. Et je vous propose de relire le paragraphe qui précède et celui qui suit cette déclaration pour nous remettre dans le contexte. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place, est ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Si quelqu'un est uni au Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et permette qu'elle nous fortifie, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous touche ce matin. Je méditerai trois enseignements forts de ce texte. Tout vient de Dieu, l'amour de Christ est premier. Deuxièmement, un salut qui change tout, le verset que j'ai particulièrement souligné. Et troisièmement, une bonne nouvelle à partager. Tout d'abord, et tu peux continuer, énorme. Est-ce que ça passe? Continue. Non, ça ne veut pas, c'est pas grave. Le verset 14, que vous avez déjà vu et que vous reverrez, nous dit « L'amour du Christ nous étreint ». Le verset 15 dit « Celui qui est mort à leur place est ressuscité pour eux ». Ce texte, avec beaucoup d'autres, dit clairement que ce n'est pas nous, nos parents, nos moniteurs d'école du dimanche, notre union d'église, nos pasteurs, ou je ne sais qui sont à l'origine de ce salut que nous méditons à nouveau ce matin. Ce n'est pas nous. Dieu utilise beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'instruments, et nous avons à cœur l'évangélisation, et c'est très bien. Mais ce texte nous redit, avec beaucoup d'autres textes, que c'est Dieu l'auteur du salut, et de la purification, et du pardon. Un peu plus loin, au verset 18, donc continue encore, ça c'était la lecture, et voilà, on a le texte en rouge. Versets 14 et 15, l'amour du Christ nous presse. C'est là que tout commence. Et celui qui est mort à notre place est ressuscité pour eux, c'est le Christ. Et c'est encore là que tout est rendu possible. Et un peu plus loin, tu peux continuer, verset 18, tout cela est l'œuvre de Dieu. Il ne veut pas, hein ? Oh. Mais c'est vrai quand même, tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui l'a voulu. Et c'est dans l'union avec le Christ que nous pouvons être déclarés justes aux yeux de Dieu. L'amour de Christ est premier. Cet amour nous étreint. Pas toujours autant qu'il le devrait. Mais plus cet amour du Christ m'étreint, plus mieux je marche. C'est Jésus-Christ qui est mort à notre place, personne d'autre. C'est l'œuvre de Dieu, verset 18, et pas la nôtre. C'est lui, l'innocent, verset 21, qui a bel et bien été condamné, meurtri, cloué sur le bois. Tout vient de Dieu, et c'est un enseignement qui peut nous garder, nous en avons besoin, dans une vision plus juste des choses et dans l'humilité tellement importante dans la vie. L'humilité nous met dans un état tellement juste et l'orgueil dans un état de folie qui fait beaucoup de mal. À l'orgueilleux que je peux être et à ceux que je croise et à tous les autres. Tout vient de Dieu. Deuxième enseignement, le verset que j'ai mis tout particulièrement en évidence pour le culte, la prédication de ce matin. Celui qui est en Christ appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, peut-être même une nouvelle diapo, mais ce n'est pas sûr. Si ! Toutes choses sont devenues nouvelles. Une affirmation qui dit la profondeur de ce qui se passe quand on reçoit le salut que Dieu nous offre. Une affirmation qui dit que tous les domaines de notre vie sont touchés. Une affirmation qui peut nous surprendre, qui peut peut-être nous déranger. Une affirmation qu'il faut bien comprendre. Bien sûr, il y a des choses qui vont rester semblables à elles-mêmes avant ma conversion et après ma conversion. Mais il y a des choses qui changent tellement en profondeur que finalement l'apôtre Paul a pu dire « mais tout est différent ». On peut évoquer quelques éléments importants. Qu'est-ce qui change profondément ? Ma connaissance de Jésus-Christ. J'ai eu beaucoup d'amis à l'université avec qui on avait tissé une amitié forte, qui reconnaissaient en Jésus-Christ un homme remarquable. J'avais un ami très engagé en politique qui admirait ce révolutionnaire exemplaire pour tous les siècles. Il me disait, oui, je suis d'accord avec toi. Le Sermon sur la montagne, c'est un des plus beaux textes de toute l'humanité. Et je pense comme toi. Et j'ai osé lui dire, pas tout à fait à mon avis. Parce que tout ce que tu dis là fait de Jésus-Christ un homme extraordinaire. Et si on en est là, on n'a pas encore reçu l'Évangile. Jésus-Christ doit être reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même fait homme. Et ça change tout. Si Jésus-Christ est reconnu avec respect comme un homme débordant d'amour, débordant de dévouement pour les autres, c'est très bien qu'il soit respecté. Mais on est avant 2 Corinthiens 5, 17. Si on reconnaît en Jésus-Christ un homme extraordinaire, on n'est pas encore au bénéfice du salut. Pour recevoir le salut que lui nous offre, il nous faut reconnaître en Jésus-Christ non seulement quelqu'un de merveilleux, ce qu'il a été, mais quelqu'un qui est Dieu lui-même, l'innocent unique de toute l'humanité, Dieu fait homme, qui a été condamné à ma place pour que je puisse être au bénéfice de la justification qu'il m'a acquise et qu'il m'offre. Donc ma connaissance de Jésus-Christ change énormément. Premier élément, il y en aura quatre, qui font que cette phrase, même s'il y a des choses qui ne changent pas, est juste. Il y a des choses tellement fondamentales qui changent que tout est nouveau. Ma connaissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, mon regard sur moi-même. Ensuite, je parlerai des autres. Si je commence par moi-même, ce n'est pas par dérapage d'orgueil, ce qui est tout à fait possible, mais c'est parce que je pense que mon regard sur moi-même doit être corrigé en profondeur et que cela va m'aider à avoir un nouveau regard sur les autres. Et qu'il est très important que nous acceptions de mieux nous connaître nous-mêmes. Avec la reconnaissance que beaucoup dans la parole de Dieu ont eue, que ce soit Ésaïe, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit d'autres, qui sont tombés à genoux devant une apparition de Dieu ou devant Jésus-Christ lui-même, parce qu'ils ont reconnu leur petitesse, leur état de péché. Et là, tout change. Tout est nouveau. Quand je me reconnais comme un pauvre pécheur pardonné par Dieu, ma vision de tout est changée. Troisièmement, mon regard sur les autres, mon regard sur vous-même, comme je l'ai dit il y a deux minutes, va beaucoup dépendre du nouveau regard que j'ai sur moi-même. Et nous devons apprendre, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent avec Jésus-Christ, et vous pouvez apprendre, vous qui êtes invités à nous rejoindre, à regarder les autres en ayant mieux compris qui nous sommes nous-mêmes. Les autres sont comme nous, des êtres créés à l'image de Dieu. Pas seulement les croyants, tous les êtres sont des êtres créés à l'image de Dieu, ce que les théologiens appellent la grâce commune. Ne soyons pas surpris de trouver du bien immense chez des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. Des personnes malmenées par le péché, oui, comme moi, ceux et celles que je croise sont des personnes malmenées par le péché. Si elles marchent avec le Christ, elles ont en lui un appui pour lutter contre le péché. Mais Hébreux 12 m'enseigne ce que je reconnais de temps en temps devant vous, et je le fais une fois de plus, que le péché nous enveloppe facilement. Et la lettre aux Hébreux s'adresse à des croyants qui, d'après l'auteur, en étaient un peu trop au lait et pas encore à la nourriture solide, mais ils avaient quand même compris beaucoup de choses. Malmenés par le péché, profondément aimés par Jésus-Christ, quand je croise quelqu'un dans la rue, quand je l'invite à faire le parcours de réflexion dans notre église, ou quand je suis au travail avec lui ou avec elle, je dois me souvenir que cette personne est profondément aimée par Jésus-Christ. Ça va peut-être mettre de côté certaines phrases, certains regards, certaines attitudes, certaines choses que je rumine. Cette personne est profondément aimée par Jésus-Christ. Elle est de la même pâte que moi, et quand elle a des failles, ça serait peut-être juste que je me souvienne que j'en ai. Et je pourrais, avec d'autant plus de justice et de justesse, lui évoquer l'une ou l'autre faille qu'il serait bon de surveiller. Oui, oui, on a le droit de s'interpeller. Merci d'oser le faire avec moi. Merci de m'aider à pouvoir le faire avec vous. Mais c'est tout différent. Quand on reprend quelqu'un en sachant qu'il est de la même pâte que nous et qu'il est malmené par le péché et qu'il est profondément aimé par Jésus-Christ, que quand je reprends quelqu'un qui m'agace, parce que franchement, il ne fait pas les choses comme elle devrait. Apparemment, vos sourires disent qu'on se comprend. Premièrement, ma connaissance de Jésus-Christ est complètement bouleversée. Deuxièmement, mon regard sur moi-même est changé en profondeur. Troisièmement, mon regard sur les autres va aussi être profondément modifié. Quatrième et dernièrement, puisque je vais englober tout, ma vision du monde. Un monde sous la souveraineté du Dieu créateur que nous avons chanté, j'ai été à nouveau touché par ces paroles qui parlent du Dieu créateur qui nous protège. Toi, le Dieu créateur. C'est pas n'importe qui, c'est le Dieu créateur. Notre monde n'est pas simplement un système extrêmement complexe, il l'est, de relations humaines et de lois de la nature et de progrès et de dégradation. Il est tout ça, mais notre monde n'est pas que ça. Notre monde est une partie de l'univers sous la souveraineté du grand Dieu éternel. Et ça change tout. Ça fait beaucoup de choses, tout cela. Je prends quelques minutes pour évoquer ce que ça ne change pas, la conversion. Vous le savez, mais je l'évoque un petit peu pour essayer d'appuyer ce qui change. Qu'est-ce qui ne change pas ? Mon corps, ma taille, ma face. Normalement, le sourire est plus marqué, mais mon visage est le même. Ma profession, dans la plupart des cas, elle peut changer, mais ma profession... Mon tempérament dans ce qu'il a de neutre, oui, parce qu'il y a du neutre dans mon tempérament. Il y a du non-pêcheur dans mon tempérament. On peut être plutôt speed, plutôt calme, et ce n'est pas la conversion qui va changer ça. Hein. On peut être plutôt intuitif, plutôt analytique. Ce n'est pas la conversion qui va changer ça. Elle va purifier tout ça. Mais il y a tout ce qui reste. Ma formation littéraire, technique, académique, mon peu de formation, tout ça, ça reste. Et Saul de Tarse, à la fin d'acte 9, bénéficiait de toute la formation qu'il avait au début d'acte 9. Mais c'est ce Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, qui écrit « Mais tout est nouveau !» Et pourtant, il avait tellement de choses qu'il n'avait pas bougé. Mais tout est nouveau. Ne soyons pas troublés par ce qui reste. Ne soyons pas troublés par l'affirmation de l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas d'une affirmation exagérée, encore moins d'une affirmation fausse, mais bien d'une déclaration solennelle qui décrit la situation globale. Et parmi les immenses changements, nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Je viens de confesser que le péché nous enveloppe facilement, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Et c'est une merveilleuse nouvelle très exigeante. Parce que si Étienne n'est plus esclave du péché, alors il doit continuer à gagner du terrain contre le péché. Et il ne peut pas dire « Ah, je suis comme ça ». Ça ne fait pas partie de ce qui reste, le péché. Et si dans mon caractère, il y en a, et dans mon tempérament, il y a des choses qui font du mal, qui font de la peine à Dieu et qui blessent les autres, alors ça doit changer. Et même si ça fait un peu plus de 50 ans qu'on est converti, j'en fais partie, on ne doit pas baisser les bras. Ça doit changer parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et le point 3 nous fait méditer un peu cette bonne nouvelle du cadeau que Dieu nous fait. L'amour du Christ nous étreint. C'était bien, t'étais juste bien. Nous sommes les heureux témoins et les heureux bénéficiaires de cette transformation que nous venons dont nous venons de faire un peu le tour. Et tout cela est tellement merveilleux, tellement vital, que c'est normal que l'apôtre Paul nous enseigne que le croyant devient un messager de cette bonne nouvelle. C'est anormal quand je ne suis pas débordant de reconnaissance au point d'en parler aux autres. Ça m'arrive souvent, hein ? Mais je dénonce cela comme anormal. Le cadeau est tel que je ne devrais pas pouvoir me taire. Acte 80. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas. Vous pouvez nous battre, vous pouvez faire ce que vous voulez, disent les apôtres dans Acte 4. Mais on ne pourra pas ne pas parler de ce qui est si beau. Moi, j'y suis souvent arrivé, de ne pas parler. Et je demande pardon à Dieu devant vous. Et clairement, le cœur de la solution, le cœur du problème quand je ne parle pas, le cœur de la solution que je veux méditer avec vous, c'est de comprendre à quel point ce cadeau est merveilleux. Ce don est si merveilleux. Nous l'avons chanté. Ce don est si merveilleux. C'est donc bien normal que l'apôtre Paul fasse du croyant, décrive le croyant comme un ambassadeur qui parle de ce nouveau monde à ceux qui ne sont pas encore dans ce nouveau monde. Un ambassadeur qui supplie les étrangers de rejoindre le groupe. Et là, je fais une pause de quelques secondes, d'une part pour laisser Lucette être menée, et pour vous faire remarquer cette expression extraordinaire. On parle d'accueil des étrangers de temps en temps, vous avez entendu parler de ça ? On parle d'accueil plus ou moins chaleureux, plus ou moins coincé, plus ou moins permis, plus ou moins pas permis. Et j'ai redécouvert en méditant ce texte à quel point l'accueil que Dieu nous demande d'offrir est extraordinairement fort. Nous vous supplions d'entrer. Ça, c'est de l'accueil, hein ? Nous vous supplions de venir chez nous et de faire partie de la famille. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Venez dans la famille des enfants de Dieu. Nous vous attendons. Voilà un accueil au top du top. Remarquons bien que tout cela est par amour. Verset 14 qui est encore bien affiché. C'est l'amour du Christ qui nous presse. Ce n'est pas le fait de vouloir convaincre l'autre. Ce n'est pas le fait de vouloir avoir raison. Toutes des choses qui peuvent polluer mon attitude avec les autres. Mais quand l'amour est ce qui m'étreint, alors je suis vraiment sur le bon chemin. Et nous pouvons être des ambassadeurs. Avec la supplication que l'apôtre Paul rappelle comme le fondement de tout cela, Jésus-Christ a été condamné à notre place. C'est une des grandes beautés et forces du symbole qu'est le baptême, une des grandes beautés et forces du symbole qu'est la Sainte Cène, de se souvenir que Jésus-Christ a été condamné à notre place. Et nous pouvons nous identifier à lui quand nous nous faisons baptiser dans sa mort et sa résurrection. Et nous nous souvenons de cette œuvre irremplaçable quand nous prenons le pain et la coupe. Conclusion. Dernier, le verset. 2 Corinthiens 5:17 que je vous apprends, que je vous invite à réviser. La plupart d'entre vous devaient le connaître par cœur. Et à continuer à méditer en demandant à Dieu par son esprit d'éclairer nos méditations encore dans les jours qui viennent. Tout vient de Dieu. Si quelqu'un est uni au Christ, tout vient de Dieu. C'est en Christ, par l'œuvre du Christ, par son œuvre actuelle, par son œuvre passée. Tout vient de Dieu, si quelqu'un est uni en Christ. Deuxièmement, un salut qui réconcilie et qui change tout. Il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau et ce qui dans ma vie ne correspond pas à cela demande à être encore purifié. Que Dieu nous aide à mieux le connaître. Que Dieu nous aide à mieux reconnaître qui nous sommes dans notre petitesse et faiblesse et avec tous les dons, toutes les merveilleuses choses que Dieu nous a données. Que Dieu nous aide à avoir un regard purifié sur les autres. Vous me voyez sourire, hein ? Je rêve de nos regards toujours plus purifiés. Les uns en face des autres. Quelle vie d'église, quelle vie de famille, quelle vie de comité, quelle vie de village, quand nous sommes au bénéfice de cette phrase, dans notre regard les uns sur les autres. Et troisièmement, une bonne nouvelle à partager, elle n'est pas dans le verset clé que j'ai mis en avant ce matin, mais elle est dans le contexte, vous vous en souviendrez. Soyons donc des ambassadeurs. Cette bonne nouvelle est tellement extraordinaire. Et je termine en nous invitant tous à répondre à cette bonne nouvelle. Ceux qui sont déjà disciples de Jésus-Christ, je nous invite à le remercier comme tout à nouveau pour le salut en profondeur que Dieu nous a offert par Jésus-Christ, son Fils. Pour ceux dans cette salle qui ne seraient pas encore disciples de Jésus-Christ, alors je fais ce que l'apôtre Paul nous demande de faire. Je vous en supplie. considérer l'amour de celui qui nous offre le salut. Voyez sa main tendue, entendez l'évangile et comprenez que ce salut est offert à tous ceux qui se tournent vers lui, qui reconnaissent qu'il a été condamné à notre place, qu'il est ressuscité victorieux et qu'il est l'unique sauveur que le monde ait connu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous permette de recevoir la parole qu'il veut lui-même faire entrer dans nos cœurs. Amen.